Nous avons un troisième message qui était annoncé à voir ensemble, une troisième injonction, un troisième impératif de l'apôtre Paul aux Éphésiens qui se trouve aujourd'hui au chapitre 5 et au verset 18. Il y a deux semaines, on a vu « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit ». La semaine dernière, on a vu « N'attristez pas le Saint-Esprit » et aujourd'hui, nous voyons ensemble « Soyez remplis de l'Esprit ». Et ces trois impératifs de Paul aux Éphésiens s'inscrivent complètement, évidemment, dans la série que vous pouvez retrouver encore sur le site internet que nous abordons ensemble depuis septembre. « Soyez remplis de l'Esprit ». Mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire un résumé à chaque fois. Vous le comprenez, sinon ça nous emmènerait trop loin. Aujourd'hui, « Soyez remplis de l'Esprit » se trouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Et puis ensuite, ce verset magnifique, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. » Ici, l'apôtre Paul, bien sûr que tout doit être consommé avec modération, nous sommes appelés à être des gens extrêmement équilibrés et modérés en toutes choses, mais ici, l'apôtre Paul, en vérité, n'est pas en train de faire le procès du vin, du fruit de la vigne, pas du tout. Il va se servir, en vérité, des effets connus du vin. Tout le monde sait ce que c'est que le vin et ce que ça peut produire comme effet. Pourquoi est-ce que Paul parle de vin ? Parce qu'on sait que l'alcool va agir sur les comportements. Ça, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est humain. On le connaît, on le sait, il y a des études. Vous avez peut-être aussi malheureusement vu des gens qui sont sous l'emprise du vin. Et quand quelqu'un est sous l'emprise du vin, d'une façon ou d'une autre, vous avez bien remarqué qu'il n'était pas lui-même et qu'il n'était malheureusement pas beau à voir. Ici, Paul va se servir de cette, comme une image du vin que tout le monde connaît et des effets qui sont connus parce que son but, c'est d'établir une comparaison. La consommation excessive d'alcool va présenter des risques, des dangers sur la santé, et ça va amener toutes sortes de dysfonctionnements. Nous, je le sais ici, je ne m'inquiète pas, je sais que personne n'est sous l'emprise du vin. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de mettre en évidence tous les dysfonctionnements qui sont possibles et envisageables lorsqu'on est rempli d'autre chose que de l'esprit. Parce que le vin ici n'est qu'un exemple. Tous les dysfonctionnements possibles et envisageables, regrettables et malheureux, lorsque nous sommes conduits sous l'influence d'autre chose que de l'esprit. Parce que celui qui est sous le contrôle du vin est influencé, il est conduit par le vin. Il agit sur tous mes sens. Les gens qui ont une consommation d'alcool excessive ont des troubles de la vision. Ils ne voient plus les choses comme vous. Et moi, nous les voyons. Les choses commencent à être floues. On ne voit plus de loin. Les gens qui sont sous le contrôle d'autre chose que de l'esprit ont des problèmes de vision. Si je ne suis pas conduit, influencé, animé par le Saint-Esprit, je n'arrive pas à voir Dieu tel qu'il est vraiment. Si je ne suis pas animé par le Saint-Esprit, je ne vais pas voir les autres tels que Dieu les voit. Si je ne suis pas animé par le Saint-Esprit, je vais me voir moi d'une autre façon. Je me verrai soit trop grand, soit trop petit, je ne me verrai pas bien. Si je ne suis pas sous l'influence, sous la conduite bénie de l'Esprit, je vais avoir des troubles de la vision sur Dieu, sur moi, sur les autres, sur les circonstances. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je ne suis pas rempli de la pensée de Dieu. Les gens qui sont sous le contrôle de l'alcool, vous avez remarqué, ils finissent par avoir des problèmes d'audition. Ils entendent tout de façon un peu bizarre, lointaine. Les gens qui ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit finissent par avoir des gros problèmes d'audition. Ils peuvent lire la Bible 250 fois par an, de toute façon, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils ne sont pas sous le contrôle de l'Esprit. On a des problèmes de coordination. Quand le corps spirituel qu'est l'Église n'est pas sous l'influence et la conduite de l'Esprit, chacun va faire son truc dans son coin, le corps est démembré, chacun fait son truc dans son coin, sans unité, mais il n'y a pas de coordination. Les gens qui sont sous le contrôle du vin, ils ne sont absolument pas coordonnés. Les gens qui ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit ne réagissent plus. Ce qui est flagrant chez les gens qui sont sous l'emprise de l'alcool, dans un état alcoolique, les gens qui sont sous l'emprise de l'alcool, c'est qu'ils ont une diminution des réflexes. Ils ne réagissent plus. Si mal, si peu, trop tard, voire pas du tout. Je suis malheureux aujourd'hui, il y a 50% du protestantisme français qui ne réagit plus devant les saletés que la société nous essaye de nous faire passer tant qu'elle le peut, sur la PMA, sur le suicide assisté, sur l'euthanasie, sur toutes ces choses, sur le mariage homosexuel, bla 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 bla. Si on n'est pas rempli de l'Esprit, si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, malheureusement, on ne réagit plus. Et on est dans une foi sociétale, une foi qui va dans le sens des pensées de la société, une foi qui devient intellectuelle, une foi qui devient rationnelle, cartésienne, une foi intellectuelle, une foi politicienne. Et on va dans le sens de la société, on ne réagit plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sous le contrôle de l'Esprit. Et les gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, il y a des situations de péché qui sont devant eux, qui sont flagrantes. Les gens qui sont sous le contrôle du vin ont toutes sortes de déséquilibres. À commencer par un déséquilibre physique, corporel. Les gens qui ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit vont avoir toutes sortes de déséquilibres dans leur vie, déséquilibres sentimentaux, désordres affectifs, désordres psychiques, désordres psychologiques et toutes sortes de désordres qui vont les atteindre. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Les gens qui sont sous l'emprise de l'alcool n'ont plus de réflexes. Quand quelqu'un conduit alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool, il n'a plus les réflexes. Et dans les situations de ma vie qui se présentent devant moi, si je suis sous le contrôle d'autre chose que du Saint-Esprit, je perds mes réflexes. On me sort une énormité. Oh ben après tout, oui, chacun est libre de penser comme il veut. Hein, voilà. Et la vérité, c'est que je ne sais pas quoi répondre. J'ai plus de réflexes d'amour. J'ai plus de réflexes de compassion, j'ai plus de réflexes de sainteté, plus de réflexes de miséricorde, plus de réflexes de grâce. Toutes mes réactions sont amoindries parce que je suis sous le contrôle d'autre chose que de l'Esprit. C'est pour ça que Paul dit « ne vous enivrez pas de vin ». Oui, bien sûr, au sens littéral, au sens premier du terme, mais aussi au sens figuré pour dire que tout ce qui va vous conduire, à part le Saint-Esprit, va amener des troubles de la vision, des troubles de l'audition, des troubles de la coordination, des troubles de réaction, des troubles d'équilibre, des troubles de réflexe, des troubles des humeurs, des troubles, etc., etc. Je crois que ce que Paul veut vraiment faire comprendre aux Éphésiens ici et à tous les croyants, c'est que, comme je vous l'ai dit, certes, si, oui, nous ne sommes pas sous le contrôle du vin, et ce n'est pas parce que Paul a dit ça que les Éphésiens, ils avaient tous un petit coup dans le nez. Non, non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose de plus profond derrière. Nous ne sommes pas sous le contrôle du vin, mais nous devons comprendre que nous sommes tous contrôlés par quelque chose ou quelqu'un. Et que ça fait partie de notre condition humaine. Ça fait partie, qu'on en soit conscient ou pas conscient, ça fait partie, en vérité, ça fait partie de notre ADN. Nous sommes créés, nous existons pour être remplis. Nous sommes nécessairement remplis de quelque chose ou de quelqu'un. Nous sommes nécessairement conduits, influencés par quelque chose, peut-être pas le vin, mais par quelque chose de néfaste. Et c'est dans notre ADN. Et si on considère, frères et sœurs, toutes les images qui nous caractérisent, nous, dans l'Écriture, entre autres les images qui nous définissent, il y a l'image d'un vase. La parole parle de nous comme de vases. Nous sommes des vases créés par Dieu. Et un vase, il est fait pour être, que vous en soyez conscient ou pas conscient, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, que vous ayez envie ou pas envie, vous serez toujours rempli par quelque chose ou par quelqu'un. C'est dans mon ADN, c'est plus fort que moi. Il faut que quelqu'un me remplisse, il faut que je sois conduit et influencé. Quand les gens disent « je gère, je contrôle, je dirige ma vie », la vérité, tu te leurres, c'est un mensonge, tu ne contrôleras rien. Rien, rien. D'où, c'est pour ça que Paul dit « à quel point vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit ?» Parce que si ce n'est pas l'Esprit qui vous conduit, qu'est-ce qu'on va trouver comme dérèglement dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple, dans votre vie d'église, dans votre vie professionnelle, dans votre vie d'éducation avec vos enfants, etc., etc., etc. Nous sommes nécessairement remplis. Qu'est-ce qui me remplit, moi ? Je suis rempli de quoi ? Qu'est-ce qui me conduit ? C'est quoi qui te conduit, toi ? Tes pulsions sexuelles ? Pardon, hein ? Il y a des gens, ils sont conduits par leurs pulsions sexuelles. Ah, ça jette un froid quand on dit ça dans les églises, mais c'est la vérité. Il y a des gens, ils sont conduits par la colère. D'autres, ils vont être sous l'influence de l'inquiétude. Et leurs décisions, ils les prennent en fonction de leurs inquiétudes. Si tu n'es pas bien, bien, bien confiant dans le Seigneur et que tu es un petit peu inquiet, à la première difficulté financière, sur le chèque, tu ne mets plus le vrai chiffre pour la dîme. Parce que c'est ton inquiétude qui te conduit. Ce n'est pas un reproche, ce sont des faits, vous avez compris. Est-ce que c'est mon inquiétude ? Est-ce que c'est le regard des autres qui me conduit ? Une majorité de gens inconsciemment sont toujours systématiquement conduits par le regard des autres, ce que les autres pensent, comment ils me voient, comment ils me considèrent. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. On est envahi, on est infesté sur tous les réseaux sociaux par l'image narcissique qu'on véhicule de soi. Et cette photo de profil, elle serait peut-être mieux que celle-là. C'est le regard des autres qui nous conduit. Qu'est-ce qui me conduit ? Les blessures de mon passé ? Les déceptions ? Les désirs de vengeance, parfois ? Est-ce que c'est peut-être mon ambition ? Mes ambitions spirituelles ? L'orgueil ? Parfois des ambitions matérielles, professionnelles ? Le besoin du toujours plus ? Il faut que j'accumule, il faut que j'en ai de plus en plus. Le besoin de matérialisme, l'amour de l'argent. Qu'est-ce qui te conduit ? Qu'est-ce qui te remplit ? Sous quelle influence est-ce que tu vis ? Mais tu vivras toujours sous une influence. Ça ne peut pas être autrement, c'est mon ADN, c'est ce que je suis. Je suis un vase, le vase est fait pour être rempli. Je suis une brebis, la brebis elle est faite pour être conduite. Et Paul dit, la solution, chers Éphésiens, vous qui avez reçu le salut avec joie, vous qui m'avez eu comme pasteur, acte 20, vous qui avez été baptisé dans le Saint-Esprit, baptisé d'eau avant ça, baptisé dans le Saint-Esprit par mes mains, qui avez goûté au miracle, à la prophétie, qui êtes rentré dans la vie de Dieu, qui avez vécu des choses extraordinaires et qui malheureusement êtes de plus en plus en perte de vitesse, parce que c'est pour ça que Paul écrit aux Éphésiens, c'est une église dont les chrétiens sont de plus en plus en perte de vitesse. Ils sont remplis par des tas de choses, mais certainement plus par l'Esprit de Dieu. Alors Paul est obligé de leur réécrire, de redépeindre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, les belles, les glorieuses vérités, les réalités spirituelles qu'ils ont laissé s'étioler, se désagréger, que des choses qui se sont perdues. Et puis Paul leur dit, si vous êtes remplis d'autre chose que de l'esprit, vous allez continuer à dégringoler. Jusqu'au jour où Jésus dit à son église, l'église d'Éphèse, comme par hasard, souviens-toi d'où tu es tombé. Et pour Paul, et dans toute la pensée biblique, la solution pour échapper à tous les drames qui peuvent se jouer dans tous les niveaux tels que je vous les ai décrits, tous ces échecs de vie, c'est pour ça que Paul dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est intéressant de voir que dans la pensée originale, certaines versions de Bible l'ont mieux saisi. Bon, soyez remplis de l'esprit, c'est très bien. Mais certaines versions, certaines traductions ont mieux saisi le sens profond. Paul aurait dit littéralement « remplissez-vous de l'esprit ». Arrêtez de vous remplir de vin, c'est une image, soi-disant « arrêtez de vous remplir d'autre chose que de l'esprit ». Remplissez-vous, Remplissez-vous vous-même de l'esprit. De la même façon que des fois vous faites le plein sur certaines choses, il ne faudrait pas le faire. De la même façon que parfois tu fais le plein de certaines images sur Internet, il ne faudrait vraiment pas le faire. De la même façon que par moment tu fais le plein de ce que tu veux ou de ta voiture, remplissez-vous de l'esprit. Si en 2019 on n'est pas rempli de l'esprit, il y a des vies qui vont caler. C'est, je vous l'ai dit, hein, au début du premier message, quand Paul dit, il commence le chapitre 4, 5, 6, en disant littéralement, « Je vous supplie, autant que je vous avertis, il faut absolument que vous conserviez l'unité de l'esprit. Il ne faut surtout pas l'attrister. » Quand il dit ça, c'est dans le contexte essentiellement de la parole, de nos attitudes, de nos comportements, de nos pensées, de nos raisonnements. Et ensuite, la troisième injonction, « Soyez remplis de l'esprit, ne soyez pas remplis d'autre chose que du Saint-Esprit, parce que tout est là. » Vivre sa vie chrétienne autrement que rempli du Saint-Esprit, excusez-moi, c'est un non-sens. Jésus, je vous l'avais dit en introduction, Jésus n'a jamais présenté la vie spirituelle, la vie chrétienne, autrement que rempli du Saint-Esprit. C'est une évidence, ça ne marche que comme ça, ça ne fonctionne que comme ça. La seule façon de vivre la vie chrétienne normale, efficace et digne de ce nom, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, Paul aurait plutôt dit, remplissez-vous, vous-même, de l'Esprit, parce que c'est votre responsabilité, au même titre que de conserver l'unité, c'est votre responsabilité. Trois impératifs qui nous concernent, nous. Ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est aussi notre responsabilité individuelle et collective. Soyez remplis de l'Esprit, c'est aussi ma responsabilité individuelle et collective. Remplis-toi, toi-même, de l'Esprit. En 2019, remplis-toi toi-même de l'Esprit. Amen. Yes. Ça vaut le coup, la vie avec Dieu. Et ma responsabilité, c'est de veiller à ce que ma vie soit remplie. Le verbe remplir est aussi intéressant dans la version originale, parce que évidemment, remplir, ça, la Palisse l'aurait dit, rempli, ça signifie abonder, c'est-à-dire remplir entièrement. Oui, abonder, remplir entièrement. Mais la pensée originale est beaucoup plus subtile, puisque Paul, ici, aurait dit, en vérité, le verbe remplir signifie que aucune partie ne soit oubliée. Que aucune partie, remplir au sens que toutes les parties de ma vie doivent être remplies. Aucune partie de ma vie doit être négligée. Chaque partie, chaque sphère, chaque aspect de ma vie, chaque compartiment de ma vie doit être complété. La pensée du verbe remplir ici est un verbe qui évoque le détail. Compléter, remplissez-vous de l'esprit, c'est-à-dire compléter dans chaque compartiment, compléter dans chaque détail, de sorte de ne rien oublier dans chaque partie de vos vies, chaque aspect, chaque comportement, chaque compartiment de vie, remplissez-vous de l'esprit. Ma responsabilité, c'est de veiller à ce qu'aucune partie de ma vie ne manque du Saint-Esprit, qu'aucune partie de ma vie ne manque d'huile. Et c'est pour ça aussi, dans cette même logique, que Paul derrière va dire « Entretenez-vous ». Entretenez-vous. Qu'est-ce que tu fais à courir comme ça là ? Je m'entretiens. Ben, t'as raison, c'est bien, oui, il faut t'entretenir. Et on le fait tout le temps, sans s'en rendre compte, c'est tellement normal. Qu'est-ce que tu fais avec ta cheminée là ? Ben, j'entretiens le feu. Parce que faute de bois, le feu s'éteint. Donc j'entretiens le feu. Entretiens-toi. Entretiens la vie de l'esprit. Et encore une fois, c'est un verbe qui nous parle de notre responsabilité. Si je néglige le feu de l'esprit dans ma vie, ben il va s'éteindre, c'est simple. Si je néglige, tiens, j'ai fait cette expérience-là un jour, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les jardins, et puis quand on était en région parisienne avec Anne, j'avais un jardin, j'avais fait construire une maison, et puis on avait un terrain, mais c'était un terrain nu forcément, qui venait d'être labouré, défriché, construit, on avait rebalancé la terre sur le terrain, etc. Puis le terrain, je m'en occupe pas. Grand parisien naïf que j'étais, moi je pensais que ça allait se faire tout seul. Puis au bout d'un moment, je vois des mauvaises herbes, mais alors des trucs, c'était moche, c'était immonde. Puis en l'espace d'un rien de temps, avec 2-3 pluies, il y en avait 30, 50, 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 50. Ma femme, elle me dit, tu veux aller jusqu'où comme ça, chérie? Il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour le jardin. Il est vraiment très laid. On a le jardin le plus moche de tout le lotissement. Je dis, ok, bon, je vais louer un débroussailleur. Ça ne se fait plus, mais à l'époque, j'avais été acheter du Roundup, c'est pas bien, je me repens, pardon. Je commence à débroussailler, j'enlève tout, puis je mets une tonne, mais j'ai mis une tonne de Roundup sur mes 200 mètres carrés de jardin, là, en banlieue parisienne. Et puis, au bout de quelques temps, pouf, toute la saleté, toutes les mauvaises herbes étaient parties. Ah, j'étais content, j'ai dit, ah, ça y est, maintenant, on va avoir du gazon. Et puis, je le laisse, je ne m'en occupe pas. Je reviens, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, ma femme, elle me dit, t'as vu le terrain? Ça avait remonté 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50, des trucs atroces. Comme je ne suis pas très intelligent, je suis un Parisien très moyen, je retourne chez Jardiland, je rachète je ne sais pas combien de litres de Roundup, je reloue une débroussailleuse, je renlève tout et je remets une tonne de Roundup sur mon terrain. Les mauvaises herbes finissent de nouveau par repartir et moi je suis très content, Bibi est très satisfait, je dis « Ah, cette fois-ci c'est bon, ça ne va plus repousser ». 3 semaines, 4 semaines après, je reviens. « Ah oh non, c'est pas possible !» Puis le voisin, il me dit, dites donc, vous avez du mal avec votre jardin, vous. Je dis, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Vous avez remarqué, j'ai pas la main verte. Hein. Il me dit, mais vous savez que si vous plantez pas, si vous plantez rien, ça, les mauvaises herbes, elles vont revenir. Pardon, il y a des chrétiens, on est obligé de leur expliquer. Si tu plantes rien, les mauvaises herbes, elles vont revenir. Hein. Le péché, il vient tout seul, hein. C'est pas un problème. Hein. Vous n'avez rien à faire pour que votre vie soit un Capharnaüm. Ça se fait naturellement, c'est la nature pécheresse. Par contre, pour que ma vie soit un jardin beau et entretenu, j'ai quand même du boulot. Donc, j'ai racheté du Roundup, mais après, pendant que les herbes étaient en train de mourir, je suis allé acheter du gazon, un beau gazon vert, et j'ai ensemencé. Et une fois que j'ai ensemencé, au lieu de m'en aller 3 semaines, 1 mois, j'étais toujours là, je surveillais mon gazon. C'était devenu la prunelle de mes... En même temps, avec l'argent que j'avais mis dans le Roundup, j'avais pas envie que ça revienne. Et je surveillais mon jardin, limite, c'était juste que j'allais pas dormir à côté sur la terrasse pour le surveiller. Et quand j'ai eu du gazon, ben, j'ai commencé à entretenir mon jardin. Et j'ai eu un beau terrain verdoyant. Et... Entretenez-vous. Si vous vous entretenez pas, votre vie va redevenir un énorme Capharnaüm. On entretient tout. Le sportif, il s'entretient. Si le sportif, il arrête de s'entretenir, de faire de l'exercice et qu'il commence à manger un peu n'importe quoi, il va faire du gras. Pardon, frères et sœurs, si vous ne vous entretenez pas spirituellement et que vous consommez n'importe quoi à la télé, vous allez faire du mauvais gras. Vous allez faire du mauvais cholestérol spirituel. On entretient nos voitures. Il n'y a pas un frère, même une sœur ici, pourtant les sœurs ne sont peut-être pas toujours aussi branchées voitures que nous, mais elles le savent. Il n'y a pas une sœur, ça ne lui viendrait pas à l'idée de prendre l'autoroute sans mettre de l'huile dans le moteur. Si, 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 il y en a. Donc toi, tu es aussi doué pour la voiture que moi pour le jardin. Nous deux, ça fait une moyenne, hein, c'est bien. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. Un moteur qui tourne sans huile, mais le moteur, il va à la casse. Si ta vie de couple, elle tourne sans huile, tu vas à la casse. Si ta vie spirituelle, personnelle, elle tourne sans huile, tu vas à la casse. Ça s'entretient, c'est normal. Tout s'entretient dans la vie. Tout ce qui n'est pas entretenu finit par s'abîmer, par s'étioler, par se dégrader, par se casser. Oui ou non? C'est logique ou pas? Mais la Bible, elle est logique, et Paul est extrêmement logique dans tout cela en définitive. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé pour les Éphésiens, qui n'ont pas su veiller, ils n'ont pas su entretenir le niveau d'huile, ils n'ont pas su entretenir, développer, garder tout ce qu'ils avaient reçu, d'où ces avertissements de Paul, et ces 3 premiers chapitres magnifiques dans lesquels il va leur repeindre, leur dépeindre tout à nouveau tous les trésors qu'ils ont négligés. Et c'est pour ça que les Éphésiens sont en perte de vitesse spirituellement jusqu'au jour de s'entendre dire « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Parce que le pire, c'est qu'ils n'ont même pas écouté Paul quand il leur a écrit « Soyez remplis de l'Esprit ». Frères et sœurs, si on ne veille pas, si nous ne nous remplissons pas nous-mêmes de l'Esprit Saint, on va payer des prix terribles parce qu'on n'a pas pris le temps de se ressourcer, on n'a pas pris le temps de se fortifier, on n'a pas pris le temps de s'équiper, on n'a pas pris le temps de s'entretenir avec celui, je parle bien de celui, la personne merveilleuse du Saint-Esprit, avec celui qui vit en nous. Et doucement, mais sûrement, au début, vous savez, on s'en rend pas trop compte, hein. Au début, ça va encore. Mais le niveau, de toute façon, doucement, mais sûrement, il baisse. La casse n'arrive pas tout de suite, mais tant qu'on continue de baisser, c'est sûr, la casse, elle arrive. Soit parce qu'on a été négligent, on a laissé le feu s'éteindre, soit, comme je l'ai dit la semaine dernière, parce que nous avons nous-mêmes éteint l'esprit par nos attitudes ou nos comportements ou nos paroles. Remplir, c'est-à-dire compléter, remplissez-vous vous-même, soyez complet, soyez rempli du Saint-Esprit et veillez-y à chaque partie de votre vie. C'est pour ça qu'il y a des moments où ça devient de plus en plus dur dans le couple. Je n'ai pas besoin d'être psychologue, je n'ai pas besoin de vous faire une cure d'âme. Je vous démontre sans problème avec n'importe quel couple qui est en difficulté que de toute façon, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que la clé, la source, la solution à tout, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de faire 20 ans de thérapie de couple. Je n'ai pas besoin de psy, même si je n'ai rien contre les psys. Je n'ai pas besoin d'eux. Parce que si je ne suis pas rempli de l'esprit, ça va devenir de plus en plus dur dans mon couple. Vous savez, quand ça manque d'huile, que ce soit dans le moteur ou dans une porte, moins il y a d'huile, quand vous manœuvrez la porte, ça fait... Et dans les relations de couple, avec le temps, ça commence à grincer à la maison. C'est de plus en plus difficile dans les relations. Pourquoi ? Ben, ça manque d'huile, c'est simple. Ça grince de plus en plus, jusqu'au jour où il y a de la casse. Je comprends pas, ils étaient chrétiens, ils allaient à l'église. Ah, ils allaient à l'église. Ouais, mais ils n'étaient pas remplis de l'esprit. Et la vie chrétienne normale, c'est pas de s'asseoir sur une chaise d'église. La vie chrétienne normale, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pardon, je veux pas être dur, hein, mais il faut être objectif. Aujourd'hui, je vous le dis, ça me fait de la peine, c'est sans jugement, mais il faut qu'on revienne aux fondamentaux, aux anciens sentiers, il faut qu'on sache ce qui se passe. Aujourd'hui, en 2018, j'entends, j'ai des contacts, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des collègues pasteurs, il n'y a jamais eu autant de couples chrétiens qui volent en éclats qu'en 2018. Je parle de couples chrétiens, on va atteindre un taux record. Veille à être rempli du Saint-Esprit dans chaque partie de ta vie. Sans huile, tu vas aller à la casse. Même si c'est dans 10 ans, la casse, tu vas y aller. Pourquoi est-ce qu'il y a plus en plus de couples qui volent en éclats ? Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Le feu a baissé. Alors je parle du couple, mais... On pourrait parler des jeunes, dans chaque aspect, chaque catégorie de ma vie. Tu es jeune étudiant, tu n'es pas encore marié, ben je te conseille de prendre un jeune homme ou une jeune fille qui est rempli du Saint-Esprit. Et que ce soit ton critère, parce que qu'il ait les yeux verts ou qu'il ait les yeux bleus, franchement, on s'en fiche. Et même s'il a des beaux cheveux, je te garantis par expérience, ça ne durera pas. Vaut mieux pour toi que ton choix de conjoint, que le garçon... pour une fille ou la fille pour le garçon, hein, parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit maintenant, que ton choix de conjoint, il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que je ne donne pas cher de ton mariage. Je ne veux pas être méchant. Il y a des réalités spirituelles. Nous devons être sérieux avec la parole de Dieu. Et si tu es jeune étudiant, tu vas avoir des tentations. En attendant que le Seigneur te montre et qu'il te conduise vers la personne de ton, que lui, il te destine, qui va faire ton bonheur, tu vas avoir des tentations. Vaut mieux être rempli du Saint-Esprit avant d'entamer une relation. Il doit y avoir une dimension spirituelle derrière. Et cette dimension, ça s'appelle « soyez rempli de l'Esprit ». Veillez à être rempli de l'Esprit. Remplissez-vous vous-même de l'Esprit dans tous les compartiments de votre vie. Et puis un jour, même si tu t'en viens avec ton épouse, amen. Tu as passé le cap de la jeunesse, des tentations, du baptême, du mariage, de l'engagement, etc. Et ça marche. C'est dur avec les enfants à la maison. Moi, je ne sais pas comment on fait pour élever des enfants sans être rempli du Saint-Esprit. Hein. Je ne sais pas. Hein. Quand ils sont, c'est toujours pareil. Quand ils sont petits, ils sont mignons. Ça va, ils sont beaux, ils sont à la queue leu-leu avec leur petit cartable pour venir à l'église avec vous. Regardez mes enfants comme ils sont beaux, ils sont bien convertis, ils vont à l'école du dimanche. Attends qu'ils soient adolescents. Puis tu vas voir comment tu auras besoin de la sagesse du Saint-Esprit pour éduquer tes enfants. Ah, on est tous passés par les mêmes choses, hein, frères et sœurs. Je ne suis pas tombé du ciel, hein, je suis passé par les mêmes combats, les mêmes enjeux, les mêmes échecs, et j'ai vécu les mêmes choses où je me suis retrouvé, comme beaucoup, un jour, à genoux dans ma cuisine, désespéré. Je dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, sinon je suis fichu. Et il l'a fait, merci Seigneur. Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, notre vie, qu'elle soit maritale, familiale, j'en donne pas cher. C'est dur dans tes relations professionnelles. T'es chrétien, on t'aime pas. Tu pensais qu'on allait te dérouler le tapis rouge ? Jésus n'a-t-il pas dit, si on a fait ces choses au bois tendre, à combien plus forte raison on va faire ces choses au bois sec ? Parce que vous n'appartenez pas à ce monde, le monde le sait, et il va d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, il va essayer de vous le faire payer. On va te faire des crasses, on va te faire des coups bas, sur le lieu de travail. Comment tu vas gérer ça ? Avec ta sagesse ? Avec tes mots ? Avec ta guerre ? Avec un parti syndical ? Être rempli du Saint-Esprit, c'est indispensable. Vous savez, frères et sœurs, j'insiste sur ce point. On n'a que deux façons de vivre notre vie chrétienne et une seule est la bonne. Soit on marche par l'Esprit, on est conduit par l'Esprit, soit c'est la chair, c'est la nature charnelle, c'est le moi, avec ses blessures, avec ses peines, avec ses peurs, avec ses inquiétudes, avec sa colère, avec ses réactions, qui va m'inspirer mes choix et mes comportements. La vie chrétienne, elle ne se vit que par l'Esprit de Dieu. Veille à ce que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. C'est la solution, c'est la clé. On peut même dire que c'est salutaire d'être rempli du Saint-Esprit. Et si des familles, des couples, des vies, des célibataires, des veuves sont faibles, c'est parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ce n'est pas dur de vieillir ? Comment est-ce que vous voulez vivre la vieillesse autrement que rempli du Saint-Esprit ? Quand vous sentez, je pèse mes mots, je le dis avec compassion, mais c'est ainsi. Vieillir, c'est une épreuve. Juste ça, vieillir en soi, vieillir, c'est une épreuve. Parce que vos forces sont en train de partir. Votre corps, c'est écrit. Votre corps, c'est inévitable. J'ai de la compassion, ça m'arrivera, c'est normal. J'ai compassion. Votre corps qui est en train de retourner à la poussière, et on le sent dans différents aspects de nos vies de vieillesse, notre corps qui est en train de tirer vers le bas et de retourner à la poussière, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je vous garantis que c'est mon âme qui va descendre avec mon corps. Et malheureusement, je le dis avec beaucoup d'amour, sans méchanceté, combien j'ai vu et combien je vois encore de frères et sœurs qui sont âgés, qui sont aînés et qui malheureusement sont dans leur vie intérieure, dans leur âme, sont en train de partir et descendre vers la mort, sont en train de mourir avec leur corps. J'ai besoin, dans chaque saison de ma vie, y compris dans la vieillesse, d'être rempli du Saint-Esprit, parce que mon homme intérieur, l'être intérieur, ma vie intérieure, va être renouvelée par le Saint-Esprit. Et même si mon corps y descend, de toute façon, l'Esprit de Dieu en moi, il va sans arrêt me tirer vers le haut, jusqu'à la dernière minute. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je vais devenir, pardon, un vieux grincheux. Je vais devenir acariâtre, je vais devenir amer, je vais devenir défaitiste, je vais devenir désespéré, même dépressif, je vais devenir amer, acariâtre, ce que vous voulez. On perd tellement de choses dans la vieillesse, on descend, c'est dur de vieillir. Comprenez, je le dis sans jugement. Je ne peux pas, frères et sœurs, vous ne pouvez pas envisager votre retraite autrement que rempli du Saint-Esprit. C'est salutaire. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin de sa plénitude dans chaque aspect de ma vie, dans chaque compartiment de ma vie, que je sois jeune, marié, vieux, parent, célibataire, veuf, qui que je sois, quoi que j'ai fait, quel que soit mon âge, quelle que soit la saison, quel que soit le défi devant moi, j'ai besoin, l'Église a besoin, même désespérément besoin, d'être remplie du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va m'apporter la sagesse. Comment je vais gérer 2019 ? Avec ma sagesse ? Ah ben, vous êtes mal barré, hein ? Avec mon intelligence ? Avec mon savoir-faire ? Avec mes blessures ? Avec mes peurs ? Avec mes craintes ? En tant que pasteur, qu'est-ce qui va me faire ? Qu'est-ce qui va être le moteur pour conduire le troupeau de Manosque, pour conduire l'Église en 2019 ? La peur ? L'ambition ? J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, sous le contrôle de l'Esprit, influencé, conduit, dirigé, inspiré, rempli en permanence par le Saint-Esprit. Rempli de l'Esprit pour l'avenir, rempli de l'Esprit pour tous les défis. Merci Seigneur pour hier, je suis toujours reconnaissant à Dieu, je lui dis toujours Seigneur, merci pour hier, merci pour la belle année. Moi je ne sais pas à vous, mais moi je suis béni, je suis heureux, j'estime que j'ai passé une super année avec vous. Je dis Seigneur, merci pour hier, merci pour ce que tu as donné, merci pour ce que tu as fait dans ma vie, merci pour la vie de mes enfants, merci pour ce que tu as fait dans la vie de ma femme, merci pour hier, merci, 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 mais Seigneur, j'en veux plus. Et je ne peux pas aborder l'avenir, je ne peux pas gérer 2019 avec le passé, avec les acquis de 2018. Je vais gérer 2019 avec l'Esprit de Dieu. J'ai besoin d'être réellement rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas être un prophète de malheur. Vous imaginez qu'en 2019, tout va baigner ? Vous imaginez que c'est les 100 balles que le gouvernement va vous filer qui va changer votre vie ? J'aurai des combats, il y aura des nouveaux combats, il y aura des nouveaux enjeux, vous aurez des changements. Oui, en 2019, c'est la vie, il y a des saisons, il y a des changements. Il y a des changements dans la situation physique, corporelle, il y a des changements professionnels, il y a des changements à tous les niveaux, il se passe des choses. Il y a des situations, il y a des tentations, il y a des défis dans le boulot, la famille, l'église, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de ma vie. Comment est-ce que je vais gérer tout ça ? Au petit bonheur, la chance. On va essayer de faire ce qu'on peut pour qu'il n'y ait pas trop de casse. On va essayer de maintenir le navire à flot. Tout ça, je vais le gérer avec la grâce que donne l'Esprit de Dieu. Je ne le gérerai pas avec mes paroles. Je ne pourrai pas le gérer avec mon intelligence, avec ma psychologie, avec ma sensiblerie, mon sentimentalisme, mon affectif, mon passé, mes expériences, mes compromis. Tout ça, j'ai besoin de la sagesse, du Saint-Esprit. Vous avez des enfants inconvertis, vous avez des collègues inconvertis, vous avez des conjoints inconvertis. Comment est-ce que je vais gérer ça ? Comme d'hab. Vous savez qu'on a ces moments où, face à toutes ces situations, on s'est tous retrouvés dans des situations où on était là, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut que je parle ou est-ce qu'il ne faut pas que je parle ? Finalement, est-ce qu'il faut que je lui réponde ou est-ce qu'il faut que je ne lui réponde pas ? Parce que vous savez, le balancier, l'équilibre est très fragile. Hein. On a vite fait de ne plus parler et on a vite fait de trop parler. Et quand on parle, on ne dit pas forcément ce qu'il faut. Qu'est-ce que je fais, Seigneur ? Je parle ou je ne parle pas ? Et si je parle, c'est pour dire quoi ? Ma femme est inconvertie, qu'est-ce que je lui dis ? Qu'est-ce que je lui dis pas ? Quand, quoi ou comment je lui parle ? Mes enfants, cette année, c'était encore pire que l'année dernière, ils m'ont fait voir pire que pendre. Qu'est-ce que je fais, Seigneur ? Je parle, Sois rempli de l'Esprit. Il va t'inspirer. Le Saint-Esprit va te donner la sagesse. Il va te donner l'intelligence. Il va te donner du discernement. Il va te donner l'inspiration. Il va te donner la bonne parole au bon moment. Et il va te remplir de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a, de tous ses attributs, de son cœur. Il va te remplir d'amour. Il va te remplir de son fruit. Il va te remplir de joie. Il va te remplir de paix. Il va te remplir de patience. Il va te remplir de fidélité. Il va te remplir de bonté. Il va te remplir de maîtrise de toi. Il va te remplir de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a. Je ne connais pas de vie plus géniale que d'être rempli du Saint-Esprit. C'est la période des vœux. On se souhaite toujours des tas de choses, hein, en fin d'année, en début d'année. Moi, ce que je vous souhaite en 2019, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé, quelles que soient vos blessures, quel que soit votre parcours, quels que soient les enjeux, les changements, les défis, quels que soient les combats, les difficultés, quelle que soit votre vie présente, je vous souhaite qu'une seule chose, c'est d'être abondamment rempli du Saint-Esprit. Et que chacun, pour notre part, dans notre Église, nous puissions veiller chaque jour de 2019 à nous remplir nous-mêmes constamment et continuellement du Saint-Esprit, afin de vivre dans une mesure de sa présence, une mesure qu'on n'a encore jamais connue, afin d'être rempli comme jamais on a été rempli. Parce que la meilleure chose que je puisse vous souhaiter, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est d'être abondamment et continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se recueille, on prie ensemble.